à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition de 17h30, temps universel du vendredi 20 décembre 2019. Abdourahmane Dia à la présentation, voici les titres. Médecins sans frontières suspend ses activités dans un hôpital de Bangui après l'arrestation de 4 employés. L'Éthiopie est devenue ce vendredi le 11e pays africain à lancer un satellite dans l'espace. En Libye, le gouvernement d'Union nationale demande de l'aide à 5 pays, dont les États-Unis, pour repousser l'offensive du maréchal Haftar sur Tripoli. Au Parti Magazine, nous aurons des réactions en Guinée après l'annonce par le président Alpha Condé d'un projet de nouvelle constitution.
Les nouveaux n'ont qu'à venir. C'est ce que moi je veux, la nouvelle constitution. Donc je suis pour.
La nouvelle constitution, ce n'est pas une bonne chose pour les citoyens guinéens.
Voilà donc, réaction à suivre dans la partie magazine. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. En Centrafrique, Médecins sans frontières suspend ses activités dans son principal hôpital à Bangui. L'organisation humanitaire dénonce la détention par les services de sécurité de 4 de ses employés. À Bangui pour VOA Afrique, la correspondance de Freeman Sipila.
Le samedi 14 décembre, des éléments armés et des forces de sécurité centrafricaines font irruption dans l'hôpital Sika géré par MSF à Bangui. Lourdement armés, ils mènent des opérations de fouilles dans les locaux de l'hôpital. Des employés internationaux du personnel MSF sont sommés de se rendre dans les locaux de l'OCRB, une unité de la police qui lutte contre le banditisme. L'un d'eux y a été retenu sans notification des motifs jusqu'au 19 décembre, date à laquelle il fait l'objet d'un brutal transfert vers les locaux de la direction de surveillance du territoire, selon MSF. 3 autres employés sont retenus contre leur gré dans les locaux de l'OCRB depuis la soirée du 18 décembre. Conséquence de ces arrestations, l'organisation humanitaire suspend ses activités dans son grand hôpital de Bangui. Malgré nos efforts pour comprendre ce qui nous est reproché, nous n'avons toujours aucune explication. Dans ces conditions, nous n'avons d'autre choix que de suspendre nos activités à l'hôpital de Sika à Bangui, à l'exception de la prise en charge des urgences vitales, explique Pierre Mendiara, directeur adjoint des opérations pour Médecins sans frontières. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
En RDC, une nouvelle attaque du groupe rebelle des forces démocratiques alliées a fait 3 morts à Beni, dans l'est du pays. Le maire adjoint de Beni, Modeste Bakwanama, a lui indiqué qu'après ces assassinats, la ville est calme, mais la peur s'installe dans ce quartier. Les miliciens ont contourné la position militaire pour venir endeuiller la ville, selon le porte-parole de l'armée dans la région. L'armée fait son travail, nous n'allons pas baisser les bras, a-t-il promis. L'opposition guinéenne crie au coup d'état constitutionnel après l'annonce par le président Alpha Condé d'un projet de nouvelle constitution, le soupçonnant de vouloir briguer un troisième mandat. Un responsable du collectif qui mène depuis mi-octobre la mobilisation de masse contre un éventuel troisième mandat de M. Conté a affirmé qu'une riposte se préparait. Au moins 20 civils et un gendarme ont été tués lors de manifestations contre un éventuel mandat supplémentaire du président Condé. Nous y reviendrons en partie magazine. L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a dénoncé ce vendredi sa mise à l'écart de la scène politique. Il a déclaré devant la presse que le parti qu'il a fondé, l'UPR, vit une crise profonde de la part de gens qui ne sont même pas membres du parti. Il accuse le pouvoir dirigé par son ancien dauphin et successeur, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, élu président en juin dernier. L'ex-chef de l'État Aziz, qui a dirigé la Mauritanie pendant 10 ans, a dû organiser cette conférence de presse au milieu de la nuit à son domicile, plusieurs hôtels ayant refusé de l'accueillir selon son entourage. Les médias officiels mauritaniens n'ont pas assisté à cette conférence de presse. Le gouvernement libyen d'Union nationale demande à 5 pays amis, dont les États-Unis, l'instauration d'accords sécuritaires bilatéraux pour l'aider à repousser l'offensive du maréchal Haftar sur Tripoli. Le point avec Nathalie Barche.
Dans des lettres adressées aux dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Italie, l'Algérie et la Turquie, Fayez al-Sarraj exhorte ses pays amis à activer les accords de coopération en matière de sécurité. Monsieur Sarraj a appelé les 5 pays à coopérer et se coordonner avec le GNA dans sa lutte contre les organisations terroristes, indique un communiqué. L'offensive lancée début avril par le maréchal Haftar a fourni à ces groupes l'opportunité et le climat approprié pour revenir en Libye où les activités se sont accrues, assure le GNA, qui appelle par ailleurs à intensifier la coopération dans la lutte contre l'immigration clandestine, la criminalité organisée et le trafic d'êtres humains. Cet appel intervient au lendemain de la mise en œuvre d'un accord de coopération militaire signé récemment avec la Turquie. La mission de l'ONU en Libye a réagi sur cet accord avec Ankara, estimant qu'une solution politique est la seule solution à la crise.
L'Éthiopie à la conquête de l'espace. Le pays a lancé ce vendredi son premier satellite, une réalisation historique pour ce pays qui vient également couronner une année 2019 record pour l'industrie spatiale africaine. Les précisions de John Lyndon.
Bien que le lancement ait eu lieu à partir de la base spatiale de Taiyuan dans le nord de la Chine, un grand nombre d'officiels éthiopiens et chinois ainsi que de scientifiques s'étaient rassemblés ce vendredi matin à l'Observatoire et Centre de recherche d'Entoto près d'Addis Abeba pour suivre en direct les opérations. Ce lancement constitue une étape majeure dans notre parcours historique vers la prospérité, a déclaré le vice-premier ministre éthiopien Demeke Mekonnen. Il s'agit du 8e lancement d'un satellite africain en 2019, battant le record des 7 lancements établis en 2017, selon Temitayo Onizun, directeur général de Space in Africa, une société nigériane qui suit les programmes spatiaux africains. L'Éthiopie devient ainsi le 11e pays africain à mettre un satellite dans l'espace. L'Égypte fut le tout premier en 1998. Les données fournies par cet équipement nommé Ethiopian Remote Sensing Satellite doivent permettre d'améliorer la connaissance des ressources agricoles, forestières et minières du pays et aussi de contribuer à une meilleure réponse aux catastrophes climatiques. Au total, 41 satellites africains ont été lancés jusqu'aujourd'hui, mais aucun ne l'a été à partir du continent.
Les États-Unis ont retiré le Soudan d'une liste noire des pays particulièrement préoccupants en matière de liberté de religion. Selon le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, c'est grâce aux avancées engagées dans ce pays depuis la chute d'Omar el-Béchir. Toutefois, cette liste est différente de celle sur les États soutenant le terrorisme sur laquelle le Soudan reste pour le moment inscrit. Mais le nouveau régime veut à tout prix que le pays soit retiré de cette liste pour relancer les investissements et son économie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a annoncé son intention d'ouvrir une enquête sur d'éventuels crimes de guerre dans les territoires palestiniens, sans toutefois désigner les auteurs présumés. Ekiabadou.
Je suis convaincue qu'il existe une base raisonnable justifiant l'ouverture d'une enquête sur la situation en Palestine et que des crimes de guerre ont été commis ou sont en train de l'être en Cisjordanie, notamment à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza, a déclaré Fatou Bensouda dans un communiqué. Cette décision a transformé la CPI en outil politique pour délégitimer l'État d'Israël, a aussitôt réagi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, tandis que les Palestiniens ont salué cette annonce. Madame Bensouda a toutefois réclamé à la CPI d'auparavant se prononcer quant à la portée de la compétence territoriale de la Cour pénale internationale dans la situation en Palestine. Elle a ouvert une enquête préliminaire en janvier 2015 sur des allégations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en Israël et dans les territoires palestiniens dans le sillage de la guerre à Gaza en 2014. Israël n'est pas membre de la CPI créée en 2002 pour juger les pires atrocités commises dans le monde.
Le président iranien Hassan Rouhani a condamné le retrait américain de l'accord sur le programme nucléaire de la République islamique. Hassan Rouhani est en visite au Japon, une première d'un chef d'État iranien depuis l'an 2000. Je condamne fermement les États-Unis pour s'être retirés unilatéralement et irrationnellement en mai 2018 de l'accord de Vienne conclu en 2015, a déclaré Rouhani lors d'une rencontre avec le premier ministre japonais Shinzo Abe à Tokyo. Le Japon a renoncé à acheter du pétrole à l'Iran pour se plier aux sanctions économiques que les États-Unis ont réimposées à l'Iran. Le pape François et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se sont tous deux insurgés contre le fanatisme religieux à l'occasion d'une rencontre vendredi au Vatican. Nous ne devons pas détourner le regard quand les croyants de différentes confessions sont persécutés en divers endroits du monde, a plaidé le pape dans une vidéo commune. Il a critiqué l'utilisation de la religion à des fins de haine, de violence, d'oppression, d'extrémisme et de fanatisme aveugle ou dans le but de contraindre à l'exil et à la marginalisation. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Voilà l'actualité économique avec Irénée Hermanoubo.
Gabriel Obiang Lima, ministre équato-guinéen des Mines, a indiqué selon le Financial Times que son pays n'avait pas besoin d'une aide de 200 millions de dollars. Une réaction qui survient en réponse à des critiques d'ONG internationales qui trouvent paradoxal que le FMI apporte une aide financière à un pays dont le sous-sol est riche en pétrole pour une faible population. En RDC, Access Bank recevra une ligne de crédit de 10 millions de dollars du néerlandais FMO pour financer des entreprises privées. L'opération sera déployée en deux tranches, dont une via le Massive Fund, un fonds mis en place par le gouvernement néerlandais pour soutenir des entreprises innovantes dans des pays en développement. La Tanzanie bénéficiera de plus de 272 millions de dollars de la BAD pour financer la construction d'un nouvel aéroport à Dodoma, la capitale du pays. C'est ce qu'a annoncé l'Institut dans un communiqué. L'État angolais a réussi à récupérer plus de 5 milliards de dollars détournés. C'est ce qu'a annoncé l'agence de presse Reuters, citant Francisco Queiroz, ministre angolais de la Justice. D'après le responsable, plus de 3 milliards de l'argent récupéré ont été détournés du fonds souverain angolais.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
2 ans de plus pour Issoufou Dayo à Berkane.
Oui, le défenseur burkinabé a paraffé une prolongation de contrat jusqu'en 2021 avec la formation marocaine depuis 3 ans à la Renaissance sportive de Berkane. Issoufou Dayo a fait partie de l'équipe qui a disputé la finale de la Coupe de la Confédération contre le Zamalek cette année. Par contre, en Europe, selon The Telegraph, le Sénégalais Badou Ndiaye pourrait quitter Stoke City cet hiver. De son côté, l'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a fermé la porte à tout départ de Paul Pogba cet hiver, même si le milieu de terrain risque de ne pas rejouer cette année. Blessé à une cheville depuis fin août, Paul Pogba n'a joué que 2 matchs avec les Red Devils, ratant 26 des 28 rencontres de Manchester et de la France.
Pyramids FC se sépare de son entraîneur.
Le club égyptien a remercié Sébastien Desabres à la suite de mauvais résultats dans le championnat. Pyramide reste sur 3 matchs sans victoire. Après un nul 2-2 devant Aswan, le club a enchaîné 2 défaites, 0-2 et 2-3 contre le Zamalek et El Gouna. Desabres n'y a pas survécu. Arrivé au club il y a 5 mois, le technicien français affiche néanmoins un bon bilan en Coupe de la Confédération de la CAF. 2 victoires en 2 matchs pour les débuts de Pyramide FC. Au total, Desabres à Pyramide, c'est 18 matchs, 12 victoires, 2 défaites et 4 matchs nuls.
Mikel Arteta, nommé nouvel entraîneur d'Arsenal.
L'ancien milieu de terrain espagnol d'Arsenal a été nommé entraîneur de Gunners en remplacement de Freddy Ljungberg, qui assurait l'intérim depuis le limogeage d'Unai Emery fin novembre. Mikel Arteta, 37 ans, sera chargé de relancer Arsenal englué à la 10e place de Premier League avec 22 points en 17 journées. Après avoir été formé au Barça, puis porté les maillots du PSG, des Rangers ou d'Everton, Arteta avait disputé près de 150 matchs avec Arsenal de 2011 à 2016, remportant notamment 2 Coupes d'Angleterre. À sa retraite comme joueur il y a 3 ans et demi, il était devenu l'adjoint de Pep Guardiola à Manchester City.
NBA, Pascal Siakam blessé, l'infirmerie se remplit à Toronto.
Oui, l'ailier camerounais des Toronto Raptors souffre d'une déchirure à l'aile subie mercredi contre Détroit et sera absent des parquets NBA pour une période indéterminée. L'indisponibilité de Pascal Siakam s'ajoute à celle de 2 autres membres du 5 majeur, également blessés. Le pivot Marc Gasol souffre d'une élongation à une cuisse qui le met sur le flanc pour au moins 2 semaines et l'arrière Norman Powell souffre d'une luxation de l'épaule gauche et son indisponibilité n'a pas encore été déterminée. Les Raptors sont actuellement 4e à l'Est.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Abdourahmane Dia, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Direction la Guinée pour écouter des réactions au lendemain de l'annonce du projet d'une nouvelle constitution. Le président Alpha Condé est apparu hier soir à la télévision nationale pour expliquer sa démarche et appeler à une large vulgarisation du contenu de la nouvelle loi fondamentale qu'il compte soumettre au vote des Guinéens. Cette sortie du président guinéen a fait réagir ses opposants réunis au sein du Front national pour la défense de la constitution. Le point à Conakry avec Zakaria Kamara.
Dans la cour de cette université située dans un quartier périphérique de Conakry, le projet de nouvelle constitution rendu public par le président Condé domine le menu des débats entre étudiants.
Moi, j'ai dit à l'Amané, la nouvelle constitution, je veux le changement. Donc, ils vont ramasser les anciens là-bas. Les nouveaux n'ont qu'à venir. C'est ce que moi, je veux de la nouvelle constitution. Donc, je suis pour.
La nouvelle constitution, ce n'est pas une bonne chose pour les citoyens guinéens. Pourquoi la changer? Je pense que c'est une mauvaise chose.
Nous avons déjà une constitution qui nous suffit largement, donc je ne pense pas qu'on a besoin de changer.
Je pense vraiment que c'est une très 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 mauvaise nouvelle. On ne peut pas changer une constitution à la dernière minute comme ça, là où déjà on a une crise politique, et aussi là où il est en fin de mandat et il veut amener d'autres alternatives pour changer de constitution. Je pense qu'il veut empirer les choses carrément. Je pense que ce n'est pas une bonne chose actuellement. Ce n'est pas le moment de changer des constitutions.
Dans une adresse aux Guinéens jeudi soir, le président Condé a déclaré avoir reçu l'avis favorable du président de l'Assemblée nationale et un avis conforme de la Cour constitutionnelle. Il a aussi annoncé que le projet fera l'objet d'une large vulgarisation. Mais ses opposants ne veulent pas en entendre parler. Le chef de file de l'opposition promet de tout faire pour empêcher l'adoption d'une nouvelle constitution. Sélou Dalein Diallo parle d'obstination.
Nous allons nous y opposer par tous les moyens à la mise en œuvre de ce projet qui remettrait en cause les acquis démocratiques de notre pays et qui mettrait en cause les acquis de l'état de droit. Nous sommes contre le principe de changer de constitution. C'est d'abord inopportun, c'est ensuite illégal et ça n'apporte absolument rien au peuple de Guinée. Le seul motif de cette obstination de Alpha de changer la constitution, c'est pour pouvoir briguer un troisième mandat en 2020 en disant que les compteurs sont revenus à zéro.
Contrairement à l'actuelle constitution, le projet du président Condé propose entre autres un mandat de 6 ans au lieu de 5, renouvelable une fois. Si elle passe, cette constitution donnerait aussi la possibilité pour la première fois aux candidats indépendants de participer aux élections législatives et présidentielles. Mais nombreux ici en Guinée veulent savoir si cette nouvelle constitution remettrait les compteurs à zéro, permettant ainsi au président Alpha Condé d'être candidat à la prochaine élection présidentielle. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Le président français Emmanuel Macron entame aujourd'hui une visite de 48 heures en Côte d'Ivoire. Il signera des accords bilatéraux pour revigorer les relations entre Paris et Abidjan. En marge de ce déplacement, Macron partagera un repas de Noël avec les soldats français basés dans le pays. Comment les Ivoiriens perçoivent cette visite? Eric Manirakiza a joint à Abidjan le journaliste indépendant Ferro Bali.
Anti-français qui prévaut actuellement au Mali, au Niger et au Burkina en particulier n'a pas encore contaminé le peuple abidjanais, même s'il y a eu l'antécédent, la parenthèse qu'on a connue en 2010-2011. Donc sa visite ici ne fait pas l'objet de commentaires défavorables ou d'hostilité. Je pense qu'il est le bienvenu. La seule difficulté en ce moment, c'est au niveau donc des manifestations politiques qui sont pour l'instant, qui ont été déclarées interdites par le pouvoir en place. C'est cela qui suscite un peu une certaine crispation de la vie politique en Côte d'Ivoire.
Le président Macron doit signer des accords dans le cadre bilatéral et surtout des projets concernant la jeunesse et le sport. Et d'ailleurs, Didier Drogba, l'idole du football ivoirien, il sera avec lui.
Oui, c'est une visite assez importante parce qu'il y a au bas mot 200 chefs d'entreprise qui accompagnent donc le chef de l'État français. Et donc, il sera question de signature de nombreux projets pour aider notre pays à aller dans le sens de l'émergence qui a été promise par le gouvernement ivoirien. Et naturellement, certaines réalisations qui ont été donc faites par le pouvoir français vont être donc inaugurées. Et vous avez parlé de Drogba qui va donc accompagner le président français dans un quartier qu'on appelle Kumasi pour inaugurer des stades qui ont été donc réalisés par la France. Et il va avoir encore d'autres choses comme l'infrastructure réalisée par la France.
Il y a le chantier du métro d'Abidjan aussi.
Naturellement, il y a aussi le métro d'Abidjan qui part dernièrement jusqu'à Porboué.
Il devra débattre avec 300 étudiants dans le domaine de la santé. Qu'attendent ces étudiants du président français?
Naturellement, les échanges qui auront lieu à Bouaké, à l'université, donc à Alassane Ouattara de Bouaké, vont certainement porter sur les relations qui sont de plus en plus ambiguës entre la France et la Côte d'Ivoire ou alors les États africains en général dans le cadre du CFA. Et c'est un sujet également qui va être sans doute abordé par les étudiants qui sont toujours des gens très curieux et qui voudront savoir un peu quel sera l'avenir du CFA pendant que la CEDEAO parle d'une autre monnaie qu'on appelle l'écho. Quelle sera la position de la France par rapport à cet enjeu socio-économique? De plus, il va être certainement aussi question de l'insécurité grandissante avec les terroristes qui ont occupé le Sahel et plusieurs États de la CEDEAO. Et je pense que le président français devrait pouvoir rassurer certainement les étudiants.
Il y a aussi le sommet de Pau l'année prochaine.
Oui, le sommet de Pau qui a été reporté parce que plusieurs chefs d'État l'ont considéré un peu comme une convocation du gouverneur et à laquelle ils ont fait preuve de réticence. Et vous avez vu que le G5 s'est réuni au Niger, naturellement, pour essayer de temporiser et dire à la France que même si vous nous aidez dans le cadre de la sécurisation de nos différentes frontières, il serait important et intéressant que vous puissiez prendre quand même les chefs d'État de ces différentes régions sans les menacer, mais en les considérant comme des partenaires avec lesquels vous pourrez négocier d'égal à égal.
C'était le journaliste ivoirien Ferro Bali.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Au Gabon, le programme 5000 logements par an lancé en 2009 par le président Ali Bongo Ondimba connaît aujourd'hui des fortunes diverses. Il avait pour objectif de satisfaire la demande nationale de l'habitat dont le déficit est estimé à 200 000. Mais des années après, les logements érigés ne répondent souvent pas aux normes. À la cité Alhambra, située au nord de Libreville, ces logements tombent en ruine. C'est un reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianze.
Si nous ne rentrions pas dans les maisons sociales, on n'est pas aujourd'hui de les gens en maison, parce que là-bas, il y avait que les serpents.
Ghislain Jumas fait partie des premiers squatteurs d'Alhambra, nom donné à la cité des Gabonais aux revenus modestes. Mais problème sur ce site situé au nord de Libreville, l'occupation des logements sociaux s'est faite de façon anarchique. Madeleine Tsamba, locataire de la cité.
La plupart des maisons, c'est les squatteurs qui sont là, qui ont pris les maisons de bénéficiaires. Il y a d'autres qui attendent jusqu'à présent. On ne sait pas quelle magouille. Quand à Sénélex, on avait fait des dossiers en bonne uniforme, mais c'était location-vente.
Bâti sur une superficie de 15 hectares, c'est en 2015 que les premières briques de ces parcelles ont été posées. La cité, partiellement achevée, manque de commodités. À Alhambra, c'est un déficit de sanitaire de qualité. L'eau et l'électricité y font aussi défaut. Et plusieurs logements, pourtant construits avec des matériaux dits durables, se dégradent au fil du temps. ZZ Meillon-Joël, président du collectif des résidents de la cité Alhambra.
Nous sommes venus nous installer pour protéger ces maisons, pour éviter que tout ne soit détruit par les voleurs et les bandits. Et nous sommes installés dans ces conditions sur la base que les conditions devaient être améliorées par la suite. Mais depuis lors, rien n'a été fait malgré les déclarations faites à la presse, malgré les correspondances que nous avons adressées au niveau de l'Assemblée nationale, chez le président de la République. Chaque fois qu'il y a un ministre qui arrive, ils nous font des promesses, il y a des effets d'annonce, nous allons améliorer vos conditions, payer d'abord les loyers et puis ensuite, deux ou trois mois plus tard, rien n'est fait.
Chaque occupant de ces logements paye entre 55 000 et 600 000 francs CFA par mois et par revenu. En octobre dernier, le gouvernement, à travers le ministère de l'Habitat, a bouclé le recensement des bénéficiaires du programme Alhambra. Cette opération a, selon ZZ Meillon-Joël, nécessité de nouveaux frais de dossier.
Avant notre installation, on avait bel et bien payé les frais de dossier. Et
qui s'élevait à combien ?
S'élevait à 50 000 francs. Et nous sommes 1095 résidents. Et donc, ça fait à peu près 54 750 000 qu'on avait donné la première fois. Ce n'est pas allé dans les caisses de l'État. Aujourd'hui, à nouveau, le CTA arrive, nous repartons sur de nouvelles bases, ils nous demandent les frais de dossier et même ils font des expulsions.
C'est le silence du côté des autorités en charge de la mise en application de ce programme de logements sociaux, cher au président gabonais Ali Bongo Ondimba. Libreville, Ismaël Obionze, VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Présidentielle américaine 2020, sept des candidats à l'investiture du Parti démocrate ont tenu hier à Los Angeles leur sixième et dernier débat de l'année. Parmi les dossiers discutés figurent l'économie, l'assurance maladie, le changement climatique, mais aussi et surtout la question de savoir qui est plus à même de défaire le président Trump. Correspondance de Jim Malone, un récit Lionel Gaïma.
Le dernier débat des démocrates s'est tenu avec, en toile de fond, la mise en accusation du président Trump par la Chambre des représentants du Congrès. Une décision unanimement soutenue par les candidats. Cependant, le favori, l'ancien vice-président Joe Biden, n'exclut pas travailler avec les républicains s'il est élu en novembre.
Je rejette l'idée de certains sur cette scène selon laquelle nous ne parviendrons jamais à coopérer de nouveau. Si c'était le cas, nous serions un pays mort. Nous devons pouvoir parvenir au consensus.
Biden, qui est âgé de 77 ans, n'a pas encore dit s'il briguera un second mandat en cas de succès à la présidentielle de 2020. En deuxième position dans les sondages, le sénateur Bernie Sanders s'en est pris au bilan économique du président Trump.
Nous voulons d'une économie qui soit profitable aux familles laborieuses et non seulement à 1% de la population. Et c'est le point central de notre campagne.
Abordant, elle aussi, le thème de l'économie nationale, la sénatrice Elizabeth Warren s'est engagée à s'attaquer au gouffre séparant les riches et les pauvres.
Lorsque vous voyez un gouvernement qui fait l'affaire des nantis et des gens bien connectés, mais pas pour le reste, c'est de la corruption pure et simple. Et nous devons appeler un chat par son nom.
Un autre démocrate du peloton de tête, le maire Pete Buttigieg de South Bend, dans l'Indiana, a mis en garde les siens contre des réformes trop radicales et trop coûteuses qui, a-t-il dit, découragerait les électeurs.
Oui, nous devons concrétiser nos grandes idées et oui, augmenter les impôts des riches, individus et entreprises. Nous pouvons aussi faire des promesses intelligentes et nous assurer que nous pourrons les tenir.
Se concentrer uniquement sur le président Trump est une recette pour la défaite en 2020, a prévenu pour sa part l'homme d'affaires et candidat Andrew Yang.
Plus nous agissons comme si Donald Trump est la source de tous nos problèmes, moins les Américains nous feront confiance quant à notre capacité d'analyser et de résoudre les problèmes de nos communautés.
Le commerce et la politique étrangère ont été aussi débattus par les sept démocrates qui ont pris part à ce débat.
fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mise en onde de Lionel Gaïma, à la console d'Anne Crafton, présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Les infos.